Bonjour, bonjour, Yves, micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition et qui vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale, plus ou moins pertinente, mais que pertinente dans 24 notes secondes, les petites images qui bougent depuis 1895, qui se sont largement épanouies au XXe siècle et qui maintenant retournent sur vos téléphones portables tout pourri. Non, mais je rigole un peu. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons évoquer la carrière d'Emir Kusturica. Apparemment, c'est comme ça que ça se prononce. Un réalisateur qui se définit lui-même comme yougoslave, né le 24 novembre 1954 à Sarajevo, qui était alors en République socialiste de Bosnie-Herzégovine, elle-même part de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, sous la direction, ai-je besoin de le rappeler, du camarade Tito. Alors après, on ne va pas s'engager dans tout ce qui a pu se passer depuis 1954, dans ce qu'on a coutume, d'appeler les Balkans, puisque ce qui nous intéresse, c'est la vie du jeune Emir Kusturica, qui vit à Sarajevo et qui très rapidement s'intéresse à deux sujets, pas grand-chose à voir à mon goût, mais enfin, le football d'une part, le cinéma de l'autre, puisqu'il entre à la prestigieuse Académie du cinéma de la capitale tchécoslovaque de Prague, donc dans un autre pays de l'autre rideau de fer, puisqu'il montre de grandes dispositions. Il réalise là-bas notamment deux courts-métrages qui sont très remarqués. Et en 1978, il réalise un court-métrage de fin d'études intitulé Guernica, un film sur l'antisémitisme vu par un petit garçon qui obtient un certain succès, puisqu'il obtient le premier prix du cinéma étudiant du Festival international du film de Karlovy Vary, un festival qui était alors très réputé. Ça donne donc au jeune émir l'occasion de commencer une carrière cinématographique. En 1979, il réalise un moyen-métrage, Les jeunes mariés arrivent, et il réalise peu de temps après son premier long-métrage qui s'appelle Te souviens-tu de Dolly Bell, un film qui rencontre un certain succès critique puisqu'il obtient notamment le Lion d'or de la première œuvre à la Mostra de Venise en 1981. Bref, la carrière d'Emir Kusturica est lancée. Et la chose va se concrétiser puisque dès son deuxième long métrage, il obtiendra rien moins que la Palme d'Or du Festival de Cannes. Le film, il s'appelle Papa est en voyage d'affaires. Alors, j'ai déjà été assez long. On va écouter un extrait de sa bande originale. Alors, pardonnez-moi, je vais bien me garder d'essayer de vous donner un équivalent du titre dans sa langue originale. Je vais juste vous indiquer que la musique de ce film était signée de Zoran Simjanovic. On l'écoute. Papa est en voyage d'affaires, mais dans 24 notes secondes. Thank you. Voilà, un bel extrait de la bande originale de Papa est en voyage d'affaires, une musique de Zoran Simjanovic, je crois que je l'ai bien descendu, un film de Emir Kusturica, le deuxième long-métrage de Emir Kusturica, après, te souviens-tu, de Delibel. Alors, les deux étaient conçus pour finalement faire une trilogie sur sa ville, la ville de Sarajevo. Ma foi, le troisième volet ne verra pas le jour, puisque ce film, qui est largement autobiographique, c'est la vie de l'histoire de la Yougoslavie entre 1945 et en gros 1960 et quelques, vues par un enfant qui a à peu près l'âge que devait avoir Emir Kusturica à cette époque. Eh bien, donc ce deuxième volet autobiographique rencontre un grand succès, et surtout il obtient, à la surprise générale apparemment, la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1985, pardonnez-moi. Donc voilà, un jeune réalisateur béni des dieux, puisque le Lion d'Or du plus grand festival cinéphile du monde, la Mostra de Venise, pour son premier film, et la Palme d'Or du plus grand festival de cinéma tout court du monde en 1985, eh bien, ma foi, c'est l'occasion pour un jeune réalisateur d'accomplissement que beaucoup n'atteignent que bien après. Mais c'est aussi un choc, puisque Emir Kusturica n'a que 31 ans, et que donc c'est beaucoup d'honneur, et du coup un peu fidèle à cette manière iconoclaste qui caractérise l'essentiel de son existence et de sa carrière, eh bien, il décide de se mettre en retrait du cinéma. Et pendant un an, eh bien, il devient bassiste dans un groupe et il y rencontre un personnage, une personne, les deux sans doute, qui va avoir une grande influence pour le reste de sa carrière, un guitariste de rock nommé Goran Bregovic. Ensuite, eh bien, ma foi, toutes les portes s'ouvrent, tout le monde veut proposer à Emir Kusturica des budgets mirifiques pour tourner, et il finit par fixer son attention sur un fait divers qui se passe dans le milieu des gitans, et du coup, eh bien, son troisième film va s'inspirer de cette population gitane, et il va mélanger à la fois un apport non pas ethnologique et encore moins documentaire sur la vie des gitans telle qu'elle peut être, mais il va mélanger cet aspect, on va dire, réel avec une sorte de réalisme magique qui n'exclut pas des éléments irrationnels, surnaturels, mythologiques. Il y a dans ce film, comme dans d'autres, après Emir Kusturica, de la voyance, de la télékinésie, de la lévitation, des choses qui normalement n'existent pas dans le monde réel si vous n'avez pas consommé 2 litres de vodka avant. Et ma foi, ça va nous donner en 1989, du coup, 4 ans plus tard, il fallait bien ça pour digérer la Palme d'Or du Festival de Cannes, un film tout à fait étonnant. Et pour ce film, je l'ai déjà un peu annoncé, la musique en sera signée par Goran Bregovic. Alors, le film obtiendra un très très grand succès, mais alors, que dire de la musique? Je suis sûr que vous allez reconnaître ça.
Yeah.
Un extrait, mais vous l'avez bien évidemment reconnu, de la bande originale du Temps des Gitans, un film d'Emir Kusturica tourné en 1989, une musique de Goran Bregovic, Edelezi, qui fut un tube ces années-là, et donc un film qui mêlait une sorte de réalisme à la Renoir, avec un fantastique à la Jean Vigo. Alors c'est pas forcément de... pour être érudit que je dis tout ça, c'est juste parce que Emir Kusturica revendique cette filiation, notamment avec celle de Jean Vigo, donc il ne proposait pas un réalisateur français à la carrière météorique quelque part avant la Seconde Guerre mondiale. Jean Vigo qui ne proposait pas un cinéma réaliste, même s'il s'appuyait sur des éléments réalistes, par exemple la vie des bateliers dans l'Atalante, mais qui au contraire s'appuyait sur ce réalisme pour proposer quelque chose de tout à fait poétique et qui ne s'affranchissait parfois de la stricte réalité pour des éléments surnaturels du monde des esprits. Et là encore, on pardonnera cette approximation, mais quoi de mieux que le monde des gitans pour justement avoir cette approche qui mêle le rêve et la réalité dans un film qui rencontra là encore un très très grand succès. Alors troisième grand succès, ma foi, Emir Kusturica a été et de ces réalisateurs, comme on va dire, gifted people, c'est-à-dire qui ont une puissance de narration, une puissance visuelle, un imaginaire, mais aussi un caractère suffisamment fort pour à chaque film apporter à la fois la même chose que dans le précédent, mais en même temps beaucoup d'originalité dans l'approche et ce côté foisonnant, un peu foutraque, un peu chaotique qui est revendiqué, mais qui, comme souvent, demande beaucoup plus de travail que bien des films, on va dire, à plat, fades, peut-être très très bien situés sur une ligne politique imaginaire, mais qui par contre ne suscite que l'ennui s'il y a bien une chose que le cinéma d'Emir Kusturica ne suscite pas, c'est l'ennui. Et ce sera vrai même du film qu'il tourne ensuite et qui est un film proprement américain. D'ailleurs, ça s'appelle Arizona Dream, qui est déjà un titre tout à fait programmatique. Un film qui, évidemment, sans doute, propose un regard d'Européen et pas n'importe quel Européen. Un regard yougoslave, un regard balkanique, un regard de l'Est sur ce soi-disant, évidemment, rêve américain. que Emir Kusturica déconstruit de belle façon, avec là encore beaucoup de scènes oniriques. On se souvient de cette voiture, une Cadillac, je crois, je ne sais plus, qui finit par s'envoler. Là encore, c'est un imaginaire très très puissant. Et Emir Kusturica est parfaitement servi en l'espèce par ses interprètes, Johnny Depp, Jerry Lewis, Faye Dunaway. Vraiment une distribution de rêve pour un film qui obtint l'Ours d'argent au Festival de Berlin, peut-être le dernier festival dans lequel Emir Kusturica n'avait pas été récompensé. Évidemment, c'est le fidèle Goran Bregovic qui l'accompagne. On va écouter un extrait de la bande originale de ce film, Arizona Dream, dans 24 notes secondes. Bel extrait de la musique de Goran Bregovic pour le Arizona Dream de Emir Kusturica, un film sorti en 1993, alors que nous sommes déjà à plus de 20 minutes d'émission. Du coup, on n'aura pas beaucoup de temps pour évoquer le reste de la carrière d'Emir Kusturica. Il faut dire qu'en 1993, eh bien, celui-ci est rattrapé par l'histoire, puisque pendant qu'il tourne Arizona Dream, eh bien, les Balkans sont en train de disparaître, ou en tout cas de se diviser. Il en résulte des guerres qu'il serait bien difficile de résumer sans sombrer dans la caricature en quelques minutes. Évidemment, Emir Kusturica est un artiste, donc il réagit à ces événements à la fois en tant qu'homme, notamment c'est la maison de ses parents est saccagée pendant cette guerre qui débute, et du coup il est fait déménager au Monténégro, qui est un tout petit peu plus calme, mais il ne reste certes pas indifférent aux événements politiques des années 90 et autres. Ensuite, après Arizona Dream, on verra en 1995 Underground, qui obtiendra à nouveau la Palme d'Or au Festival de Cannes, qui propose sa vision de l'histoire de ce qui est à l'époque déjà l'ex-Yougoslavie, une vision polémique qui va susciter beaucoup de débats, notamment dans la presse française, avec certains intellectuels professionnels de l'opposition et je dirais parfois dans des postures un peu trop académiques, hein, mais avec lesquelles il y en a un qui s'appelle, je ne dis pas son nom, hein, mais BHL, c'est les initiales de son prénom et de son nom, qui en savent évidemment du côté du 16e arrondissement. On en sait toujours beaucoup plus sur la vie dans les Balkans qu'Emir Kusturica, qui est né quelques années plus tôt. Mais du coup, dans les années qui suivent, eh bien, Emir Kusturica va à la fois mener une carrière de cinéaste, mais aussi presque une carrière d'artiste politique, ce qui ne se fera pas sans difficulté, puisque, et c'est peu de le dire, après la disparition de l'ex-Yougoslavie, eh bien, les conflits des Balkans vont exacerber les tensions, les oppositions et les caricatures aussi. Il n'empêche qu'en 1998, on verra le merveilleux Chat Noir, Chat Blanc. En 2004, on verra La vie est un miracle, là encore tout un programme déjà dans le titre. En 2007, on verra Promets-moi. On verra aussi ou pas quelques documentaires, notamment un documentaire consacré à Diego Maradona en 2008 pour signifier une des passions de toujours d'Emir Kusturica, à savoir le football. Et en 2017, eh bien, on verra ce qui est à ce jour son dernier long métrage, On the Milky Road. Alors ça fait déjà un sacré bout de temps qu'Emir Kusturica n'a pas tourné. Alors on sait qu'en parallèle de sa vie cinématographique, eh bien, donc, on l'a évoqué aussi, il fait des tournées avec son groupe musical, le Non-Smoking Orchestra. Bon, j'imagine bien que l'homme s'occupe, au risque de paraître désagréable. Je dirais que à la fois sa sincérité, sa franchise, parfois son outrance et sa capacité à dépasser les bienséances occidentales font qu'il n'est peut-être plus l'artiste bienvenu qu'il a été avec les pluies de récompenses qui l'ont accueilli au début de sa carrière. En 2017, On the Milky Road obtient, c'est ma petite fiche qui le dit, le petit lion d'or du Festival de Venise. Alors ça, c'est quand même très très symbolique. Après avoir obtenu le lion d'or pour son premier long métrage, cette fois il obtient le petit lion d'or. Peut-être que c'est aussi le petit qui qualifie le mieux la pensée occidentale et ce qu'elle peut caricaturer de pensée qu'elle maîtrise plus ou moins. Bon, plutôt que sur des polémiques, on va se quitter en musique en espérant qu'Emir Kusturica pourra à nouveau tourner des films qui nous font rêver, des beaux films avec plein de belles images, des acteurs et de la musique. À la fois, on en manque un peu de beaux films. Donc Emir, sors de ta coquille et On the Milky Road again avec 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you, bye bye, dans Yougoslavie.